Station Sérail.
Station Sérail interroge les liens que nous entretenons avec nos territoires.
Nous partons de ce principe que chaque lieu se charge et se transforme à la mesure de nos passages. Chaque corps se charge et se transforme à la mesure des paysages qu'il rencontre et des histoires qu'il y inscrit. Nous sommes liés de manière sensible et immatérielle aux espaces que nous occupons.
La Beaucène, épisode numéro 3, vendredi 12 mai 2023. Nous sommes en ce moment même en train d'écouter cette émission à la mairie de La Beaucène. N'hésitez pas à nous rejoindre et belle écoute.
Du quai,
La Beaucène.
À côté de l'eau qu'on a, de l'eau qu'on a.
Ah oui.
C'est le grand-père qui avait fait ça en...
Ah ouais, 1910.
1910 et l'étable en même temps.
Hein?
L'étable en même temps.
Ah oui, l'étable en même temps,
ouais. Ouais, et c'était fait sur l'ancienne route de Trimère-La Beaucène.
Ah oui.
Ouais, parce qu'avant il passait chez Jules. De chez Jules, il rejoignait là.
Ah, le chemin, là.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et après, ben après, sur les plans napoléoniens, on les voit.
Oui, c'était pas l'ancienne route de Saint-Malo ou ça, là.
Ah, ne crois pas. Oui, je...
Parce qu'il y a les chemins, là, comme les grands chemins qu'il y a, là. Et il me semble que c'était l'ancienne route de Saint-Malo.
Eh ben, je sais pas. Oh, je pense pas, quand même. De Saint-Malo-Rennes.
Hein?
Saint-Malo-Rennes.
Ouais.
Saint-Malo-La Beaucène, direct. Et ouais, et donc ça s'est fait là, sur l'ancienne route. Et maintenant, bah, la route après a été.
Et tu sais où c'est les béliers là, tu sais, hein, en dessous de ces Julien,
oui.
En dessous des Douetteaux, là-bas, il y a un grand chemin qui est large là. Tu sais bien? Qui rejoint. Qui passe en dessous des béliers.
Oui, d'accord, ouais.
Il y a un chemin qui est vraiment large, comme d'ici, il y a là, la porte, là.
Oui, d'accord, ouais. Moi, je ne connais pas le chemin là.
Ah, ben, moi, je t'ai toujours entendu dire, c'était l'ancienne route de Rennes-Saint-Malo.
Rennes-Saint-Malo.
Ouais. Ouais.
C'est marrant.
Ben, là, oui. Hein. Mais le chemin est large, hein. Il y a où passer au moins 3 ou 4 charrettes de.
Ah, oui.
Ah, oui.
C'était les autoroutes de l'époque.
Ah oui.
Donc là, j'ai récupéré ça autrement.
Ah oui. Ah oui.
Ça, comment on appelle ? Un traquenet.
Traquenet ?
Ouais.
Ça servait à quoi ?
Alors, ça servait à. Quand les cloches étaient parties à Rome, donc il y avait plus de. Pour avertir qu'il y avait une messe ou. Les choristes se promenaient dans la. Dans le. Comment. Dans le bourg avec. Pour avertir le.
Le gars champêtre, pour dire quoi.
Un petit peu, ouais. La ouais, ou s'il y avait peut-être une épidémie aussi, ben, pour avertir les gens. C'est ce qui remplaçait les cloches. Ouais. C'est ça, Marcel?
C'est ça aussi, hein?
Je ne boirai pas de votre sauce. C'est un bourdalou ou un pisse debout. Bourdalou parce que le curé s'appelait Bourdalou et il faisait des messes et des sermons qui duraient ad vitam aeternam, qui duraient 3 ou 4 heures de temps. Alors les gens, pour rester à la messe, les femmes, ils avaient leur
pisse debout.
Leur pisse debout, leur bourdalou.
Mais il était où de mettre ça dans un sac quand même?
Bah oui, une fois qu'ils ont fait pipi, ils mettent ça.
Mais quand ils te.
Bah, ça sert si, de récipient. Si. Ils devaient mettre ça sur les fleurs à la sortie de la messe. Ça servait de désherbant au départ. Et après, ça poussait mieux. Et ça, quand il faisait froid, donc il allait à la messe avec leur petite boîte, là. Ils mettaient de la braise dedans. Et ça faisait chauffe-pied. Donc alors, le chauffe-pied plus le bourdalou, impeccable. Tout va bien.
T'es à l'aise. Mais quand il y avait des sabots, quand même, ça n'était pas froid.
Mais donc, bah oui, mais quand il faisait moins... Les aiguilles, c'était pas chauffé à l'époque.
Ah, madame, non. Hein.
Les hivers étaient plus rudes que maintenant. Mmh. Je pense qu'il...
Il fallait être motivé pour aller à la messe. Hein.
Oui, c'était le matin 6h.
Hein, en ben, il y avait 6h, il y avait deux messes, la messe de matin et la messe de 10h. Hein.
Oui, tous les jours, mais, à 6h.
Ah oui, il y avait une messe tous les matins à 6h.
Ah ouais. Hein.
Et il y avait du monde.
Oh ben, les bigotes.
C'est les bigotes. C'est quand les bigotes.
C'était celle qui allait à la messe tous les jours, quoi.
On arrive à l'église. Enfin, l'enclos paroissial, précisément, parce qu'il y a... le cimetière est encore autour de l'église. C'est une des particularités, ça... Il y en a de moins en moins. Hein. Ces deux parties, là, de part et d'autre du portail, ces pierres verticales, ça s'appelle des échaliers. En fait, c'était fait pour... Parce que souvent, les animaux étaient en liberté, même des cochons, des choses comme ça. C'est pour éviter qu'ils rentrent dans le cimetière. Et par contre, à pied, ben, on pouvait monter et passer dans le cimetière. Donc il y a trois cloches. Il y en a une qui doit être de 1847, je crois. Une autre qui a été changée en 1949 et la plus grosse en 1955. Alors, elle sonne tous les jours à 7h, à midi et à 19h, en fait, en Génus, en fait.
C'était plein l'église autrefois, mais maintenant. Les gens viennent de l'extérieur beaucoup, comme il y a 11 paroisses. Alors les gens... Ben oui, on faisait les reposoirs autrefois. Et on décorait la route aussi.
Ici, dans cette petite maison-là, il y avait un maréchal ferrant, ici, là. La mairie, on a racheté cette petite maison et il y a encore le soufflet de forge au rez-de-chaussée. Ce maréchal Ferrand-là, il est mort à la guerre 14-18. Il était très, assez âgé, il avait 4 enfants et il a été mobilisé, ce qu'on appelait la réserve territoriale, parce que justement il était maréchal Ferrand et il était au, ce qu'on appelle un régiment du train des équipages. C'est ce qui est l'ancêtre du train. Pour ferrer les chevaux, sans doute. Et il avait plusieurs enfants. Et moi, j'ai connu sa fille, qui était déjà âgée quand je l'ai connue, bien sûr. Mais elle tenait une épicerie ici.
Là,
voilà. La première maison, là, c'était une épicerie.
Donc là, on est sur la...
Sur la rue principale. Donc voilà, ici, cette petite maison, le premier escalier, c'était une épicerie. Juste à côté, c'était une boulangerie.
D'accord, donc c'est le...
Boulangerie-café.
Et le 12 et le 14.
Et le 14. Donc là, les gens ici, ils faisaient café aussi. Et en face aussi, il y avait un petit café, c'était une vieille dame. Et là, on allait boire, quand on voulait boire quelque chose, c'était dans sa cuisine, en fin de compte. J'ai oublié de vous dire que là où il y avait le forgeron au bout, ça faisait café aussi. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais celui-là, je m'en souviens, et celui-là aussi. Donc là, on en a déjà 3 de café. On prend la route de Trimère, là.
Donc la rue du Stade.
Rue du Stade. Donc ici, c'était un charcutier, une charcuterie.
À l'angle, là, la maison grise.
Toute cette maison-là.
Ouais.
Oui, la partie grise, c'était plutôt le commerce. Enfin, non, c'était tout. Et ça faisait café aussi. Et derrière, ils avaient installé... Bonjour. Ils avaient installé une salle de restaurant.
D'accord.
Ici, là, dans toute cette partie-là. Alors là, on retombe dans la rue principale. Et puis, donc, toute cette partie-là, il y avait encore des commerces. Alors, à gauche, en face de la mairie, là, il y avait un cordonnier, marchand de chaussures et coiffeur. On allait se faire couper les cheveux là en même temps. Juste à côté, il y avait un bourrelier, sellier bourrelier, donc il s'occupait de faire des articles en cuir pour les animaux, pour les chevaux, etc. Des colliers, des choses comme ça. Après, là, je me souviens plus. Là, ici, il y avait une épicerie qui... Donc, c'était une famille qui tenait cette épicerie. Le monsieur, il faisait des tournées en campagne avec sa camionnette. Et puis, ils ont eu un accident. Un dimanche, ils ont eu un accident de la circulation. Le monsieur, il est décédé avec une des filles, si je me souviens bien. Et puis, donc, du coup, après, ça a fermé. Ça n'a jamais réouvert. Donc, juste à côté, il y avait le café... qui existe toujours, bien sûr. Ça faisait café, restaurant, s'il y avait une salle, bureau de tabac. Il y avait énormément de monde. Hein. Le dimanche, ici, c'était fou, le monde qu'il y avait. Juste à côté, donc, les gens du café, ils tenaient une station-service et un garage de mécanique automobile. Le monsieur, il faisait de la mécanique. C'était l'école des sœurs, en fait. Donc moi, c'est là que moi, je suis venu à l'école. Et mon frère aussi, et ma sœur. Alors mon frère, il est plus âgé, il a 12 ans de plus que moi. Donc il est venu à l'école ici quand il était petit. Et je pense au moment où il est rentré en CE1, je pense. Où, comme ça n'était pas mixte pour les plus grands, il est allé à l'école des garçons, qui est derrière la mairie, qui aujourd'hui est la salle du conseil municipal. Donc ça, c'était l'école des sœurs. Alors, elle était à peu près... Enfin, le bâtiment principal, là, existait déjà. C'était pas fichu comme ça, mais ça existait comme ça. Il y avait deux classes. La classe des petits, avec une institutrice qui s'appelait Mademoiselle Odile, qui a fait toute sa carrière ici, d'ailleurs. La partie la plus haute, là, c'était le logement des sœurs. Et on mangeait là. Enfin, pour ceux qui restaient manger à la cantine... C'était une sœur aussi qui faisait la cuisine et on mangeait là. Et la particularité de ce bâtiment, c'est que dans la partie de droite, là, il y avait une scène de théâtre qui était permanente. Il y avait un décor de théâtre qui était caché toute l'année par le tableau de la maîtresse. Et quand au moment de jouer au théâtre, le tableau s'abaissait, ça faisait une avant-scène. On vidait toute l'école, tous les tables et bancs des élèves, on les mettait sous le préau. Tout le monde ramenait des chaises et des bancs du patronage ou de l'église. Et on jouait au théâtre donc le 24 décembre au soir, l'après-midi de Noël, le samedi qui suivait Noël, le dimanche après-midi qui suivait Noël. Et ensuite, on remettait tout en place pour la rentrée en janvier. Donc ça a duré très longtemps. Enfin, moi, j'ai des souvenirs... tout petit, d'être venu au théâtre. Alors les parents d'élèves, c'était un théâtre de patronage, hein, c'était les parents d'élèves qui faisaient des gâteaux, qui tenaient la buvette, etc. Puis des gens de la Beaucène qui jouaient au théâtre, bien sûr. Et moi, j'ai des souvenirs tout petits. J'y ai joué une année ou deux quand j'étais adolescent. Donc c'était sympa, ça. Donc c'était le curé qui choisissait la pièce. Bon, c'était des pièces comiques, hein, mais on allait répéter le vendredi soir au presbytère, et puis au moment de jouer, on venait jouer ici, quoi. Et donc on jouait le 24 décembre au soir, et on descendait ensuite à pied à la messe de minuit, mais pour le coup elle avait lieu à minuit puisqu'on sortait du théâtre et après on allait à la messe. C'est des bons souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui reparlent de ça encore, qui en ont d'excellents souvenirs, avec des gens qui jouaient de la Beaucène, qui avaient vraiment des dons d'acteurs qui étaient extraordinaires. Donc voilà, l'école de la Beaucène aujourd'hui.
Moi, je venais à la Beaucène avec un double regard en tant que nouvel habitant de cette région, et puis de ce village, dont on connaissait vraiment personne à la base, qu'on n'avait aucune attache sur la Beaucène. Et puis, en tant qu'également le directeur de l'école, et puis le maître de l'école, quoi. Avec un contexte particulier, l'école rouvrait, donc il y avait une attente, notamment des élus de l'époque, très très forte, sur, c'est l'enseignant qui arrive, l'école ouvre, leur projet, eux, qui étaient en route depuis 2-3 ans, prenait vraiment forme. Et donc je me souviens, la première fois, donc je suis arrivé ici, quelques jours avant la rentrée, j'ai découvert les locaux de Sainte-Val et de la Beaucène. Et puis, je me rappelle bien le jour de la rentrée, hein, voyant les premiers élèves aller avec leur cartable à l'école, quoi. Voilà, donc c'est l'image que j'ai, je les vois remonter, enfin certains... remonter la rue du stade à la Bossène. Et puis bah voilà, c'était parti. L'école avait fermé en 2000, c'était une école privée qui est restée à la Bossène. Et je crois qu'il devait y avoir, c'était une sœur qui faisait classe d'après ce qu'on m'a raconté. Et l'école publique devait être fermée par contre depuis 15 ou 20 ans et il n'y avait plus vraiment d'école. Et puis l'école privée, ils ont dû terminer, je crois qu'ils ont attendu que la sœur parte en retraite pour fermer l'école. Et ça devait être dans les années 2000 et il devait rester une dizaine d'élèves d'après ce que j'ai compris quoi. Voilà. Et l'école publique actuellement a été rénovée et agrandie à partir des locaux de l'école privée quoi.
Juste quelques mots pour se remémorer aujourd'hui suite au discours qui a été fait par le ministre et bien toutes les personnes de la Bossène plus précisément qui se sont engagées et qui grâce à elles en l'occurrence et bien nous arrivons à vivre désormais dans cette commune de façon plus libre. La situation est toujours compliquée. Je pense tous nos compatriotes de l'Ukraine qui vivent toujours sous la terreur et espérons que malgré parfois nos dirigeants quelque peu surprenants, la guerre ne vienne pas jusque nous. Je vous invite et les uns et les autres à venir partager le verre de l'amitié. Sera beaucoup plus réjouissant à la salle du conseil de la mairie. Je vous remercie.
J'ai vécu le bombardement à la côte du bourg, là, au Place Hirog. Sept camions de mitraillés samedi matin. Et deux bombes qui avaient tombé à la maison montant la côte du Place Hirog, là, oui. À côté de la route, là, dans le champ, là. Et une autre qui avait tombé à Cardroc, sur la route à la Ville-Pian, là. Tu sais, c'est la nationale, là. Mmh. Après la Gimondelle, là. Ben, elle est tombée à côté de la route aussi. C'est les Américains qui avaient bombardé ça pour couper la route des Allemands, pour ne plus qu'ils pouvaient se replier. Et il y a eu 7 camions de mitraillés dans la côte du Place Hirog brûlés. C'était un samedi matin. Ouais. Il y en a eu qu'un qui n'était pas... C'était à la Croix des Grands Clos, derrière chez Paul Pinault.
Qui est mort.
Oui, mais il y avait eu un mort.
Oui, un Américain qui l'a retrouvé, enfin, qui l'ont exhumé et...
Oui, oui. Oui, oui. Qui voulait sauver les... Comment... qui est mort, là. Sept camions grillés. Et le dimanche matin, ben, le dimanche après-midi, ben, le père dit, on va aller voir ça. Et mon père était à Cardroc le matin, là. Le samedi, c'était... La journée que les Le samedi, il allait chercher la viande à la boucherie, parce que le boucher ne pensait pas à la campagne, quoi. Hein. Mais il était parti chercher de la viande, un rôti ou des trucs comme ça pour le dimanche. Et là, il voyait ça d'en haut, là-bas, lui. Il voyait comment il mitraillait ça. Et nous, on était dans un abri, on était caché dans un abri. En terre, hein.
Il y avait des abris souterrains ici qui avaient
été... Ah oui, oui, il y avait un fossé, là, un creux, là, derrière la maison de chez nous, là. Et bien, le père avait fait un abri, là.
Le papa était caché, lui, avec son frère, dans le chemin qui donne vers chez Jules, là.
Ah oui, oui.
Et toutes les cartouches leur tombaient tout par là. Oh,
ben, là aussi, quand les mitraillères, là, des noms, ça faisait pas beau, hein. Ouais. De cacher avec mes soeurs, avec l'aîné de mes soeurs, et puis l'ouvrier, ma mère, ça, et le père, on te cachait là. Hein. Pour le père, il était à 4 ans, mais ma mère, oui.
Oui, mais c'est même les gendarmes qui allaient dire qu'il fallait se planquer.
Ah oui, 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 oui. Il y avait des gendarmes qui disaient planquez-vous, parce qu'ils vont vous tisionner.
Voilà.
Et c'est là que vous êtes allé, pardon, dans les abris. Dans les souterrains et tout ça?
Non, pas dans des souterrains. Ah non, il était dans des maisons, il n'était plus à la maison, quoi.
Non, il n'était pas à la maison, ouais.
Ah non,
ouais.
Il était chez d'autres personnes ou ailleurs, quoi. Hein.
Oui, voilà, ouais.
Ouais, ouais.
Comme disait, c'est André Forestier qui m'avait raconté ça.
Ouais, ouais.
Il me dit, j'étais planqué dans le... Bon, il montait par le clocher d'église. Mmh. Et après, il allait sur la nef, juste à la grande porte.
Ouais, ouais.
Puis il me disait avec son petit accent, merde. Ils ne trouveront pas là.
Ils ne trouveront pas là. C'est comme il y avait Fourel qui était boulanger à la Beaucène, tu sais.
Oui.
C'était Fourel qui s'appelait.
Oui.
Parce qu'il faisait partie de la résistance. Et bien, lui, parce qu'autrement, les Allemands l'auraient réquisitionné. Et bien, il était monté dans la cheminée, lui. Il s'était caché dans la cheminée de la maison.
Ah oui?
Oui, dans la cheminée.
Comment il a fait pour s'accrocher comme ça?
Ah ben oui, mais il y avait la crémaillère, vous savez. Il y avait la crémaillère. Alors il avait pris la crémaillère et puis il avait monté. Il avait fait des... Il avait
oui, des petites marches.
Et il s'était caché dans la cheminée pour ne pas être réquisitionné. Tous les hommes, une grande partie, tous les jeunes de plusieurs années étaient réquisitionnés à l'armée déjà. Hein. Il y avait des rappelés, quoi.
Mmh.
Ah ouais.
Où il y a eu des représailles, c'était à Cugin. Il y a un Allemand qui avait été tué, et personne ne s'est dénoncé. Il avait enfermé tout le monde dans l'église.
Ah ben, c'était au Radour.
Non, mais à Cugin aussi.
À Cugin aussi, oui.
Ouais. Et le maire a réussi à... Le maire, ou je ne sais pas qui, il a réussi à...
À négocier.
À négocier. Et... C'était presque au Radour en...
Ah ouais, c'était presque au Radour.
Le 10 juin 1944, au Radour.
Et du coup, oh. Il a réussi, le maire, à faire...
Ouais. Il y a un livre hein, sur ça, hein, sur...
Il a réussi à négocier avec eux, quoi.
Ouais.
Oh ben, tout le monde s'il a négocié avec eux, c'était pas sans petit coup de... Il y a eu une contrepartie,
oui. Hein. Je pense.
Il y a eu une contrepartie, hein. Il a négocié avec eux, hein. C'est comme le jour que mon père là, est parti avec les chevaux et la charrette, ben, il y avait les voisins la Béréchère à la ferme, là, que tu as les corbes, les parents corbes. Oui. Et ben les Allemands, ils furent pareil dans l'écurie, ils virent qu'il n'y avait plus de chevaux, les chevaux étaient cachés. Et ben ils choisirent la plus belle vache de l'étable, le lendemain, ils l'ont tuée là. Ils l'ont tuée. Et elle n'a jamais été payée, ni quoi que ce soit.
Ah ben non.
C'était saisi par eux. Hein. Ah, ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein.
Et là, chez nous aussi, donc ils venaient prendre des œufs. Enfin, ils venaient prendre des œufs de force. Hein. Et des œufs, il y avait des poules. Disons, la grand-mère dit, prends la poule là. Il ne faut pas prendre celle-là. Ils retournent, prends celle-là, ils couvrent. Ils reviennent, ils saignent la poule. Maintenant, c'est celle-là.
Ah, il n'y avait pas. C'était d'autorité, hein.
Ah ouais, hein.
C'était des... Ah ouais, hein.
Ils ne fallait rien leur laisser en vision, ils prenaient tout.
Ils couchaient quelquefois dans les meules de paille qu'il y avait.
Voilà,
à l'époque. Là. Le matin, il fallait faire attention de ne pas les enfourcher en allant chercher de la paille.
Ouais. Il y avait c'était de la dictature allemande, hein. Alors pour les seules mottes de beurre sur la table hein, ou des trucs comme ça, ben c'est parti. Hein. Ils ramassaient tout.
Ils ramassaient tout, hein.
Ouais. Non.
Заиграй, цыганчик, нам на виолино. Змирай, кличе, йо на цисти мелюдие. Писем прави о себе найзапоем. И но цисти киему едини дом. Послушайте, видно, знова отговарям. Хай запив седа ін заіграв вам Бог. Біле прашне поті водіме вдалі, а вон там зустрічуєм люди. Io smegliai ali mi mogredo moja pesem jesmi moja pesem je žalost i odseva v očih tih neznanih ljudi i ih vsak dan srečuje.
Oui, je suis née au Bouillon.
Dans cette...
Non, pas ici, parce que derrière, c'est mon petit-fils. Moi, j'avais pris la succession de mes parents, de la ferme. Ben, moi, après ma fille. Après, mais c'est mon petit-fils qui est derrière. Et puis nous, en 85, on est parti en retraite. C'était une grange, on appelait ici. On a fait rénover ça pour venir ici.
D'accord.
Oui, ça fait depuis 85 que je suis ici. Mais ça fait 95 ans que je suis au Bouillon.
Vos parents étaient agriculteurs aussi?
Oui, oui. Oh ben non, puis autrement, nous, quand on était petite, si on veut, on avait un nourrice, comme maintenant c'est la nourrice, mais de l'autre côté de Tatania, il mettait au souhait de... quand ils n'en voyaient pas papa, maman tous les dimanches, ni tous les jours, hein. C'est quand tu t'es rendu là-bas, tu n'avais pour 3-4 mois, hein. Parce qu'ils venaient avec le cheval, la voiture, nous, en là-bas. Hein? C'était jusqu'à la touche aux aubris, mais ça borde presque les deux, ça. Ouais.
Ah oui, donc vous étiez en nourrice avec vos sœurs là-bas.
Oui. Jusqu'à deux ans et demi. D'accord. Parce qu'ils voulaient pas. On se faisait bien, et puis on te. Ils voulaient nous garder, ils voulaient pas. Ben, m'ont dit, vous leur gardez, mais elle dit, je vous paye plus. Si vous voulez leur garder, ben vous leur gardez, mais je ne paye plus. Oui. Ça fait que bon, ça passait deux ou trois mois, puis après, madame, je reviens à la maison. Alors oui, femme, c'était un peu normal aussi. Parce que quand une. Après, quand elle est venue, quand elle est plus grand, ben, quand elle est venue, elle est restée accouchée. On l'appelait tout le temps maman de notes. C'était pas tata de nous, elle s'appelait madame de notes, c'était maman de notes. Alors, maman de notes, madame, on couche trois dans le même lit pour lui donner une place pour se coucher. Elle faisait pas le retour dans la journée, c'était trop loin à pied. Parce que déjà d'ici à Tataignac, on a 5 km, elle avait 4 km de l'autre côté de Tataignac. Alors ça faisait trop. Ah ben maman de notre, cette maman de notre, cette. Cette comme notre maman, cette pareil. Ah oui. Ben, c'est pour ça qu'elle avait tout le temps des enfants en garde. Elle était tellement bonne. Et puis ben, il n'y avait pas. La route ne desservait pas le. Tataignac non plus, ça là, c'était la route pas faite, c'était qu'un chemin. Alors, je pense que. À l'hiver qui venait comme ça, ben c'était par les chemins-là, on ne rigole pas, il y a des fans dans la voiture. Ça avait peur que le cheval tombe dans le trou. Mais puis ben, des fois, pendant l'occupation, ben, il y avait des jeunes sur la campagne ça, qui jouaient de l'accordéon. Ben, il y avait une maison qui n'était pas habitée là, au-dessus de ces gens, mais plus loin, à 2 km de là, ben, et on se réunissait le dimanche après-midi là, faire un bal, et puis tout le monde dansait. Que c'était sur la terrasse ou pas, c'était pareil, il n'y avait pas de parquet. Bon. Bon, ben une fois, c'était les Allemands qui arrivaient, mais ils venaient pour s'amuser aussi. Oh ben là, il a dit que tout le monde partait parce qu'ils pensaient qu'ils nous auraient tous réquisitionnés ou un truc comme ça. Mais non, ils venaient pour danser, pour s'amuser aussi eux. Du coup, ben, ils sont restés. Puis ceux qui jouaient, ben, ils ne peuvent pas remballer l'accordéon. Il n'y avait pas tant de trucs pour jouer de la musique comme maintenant. Tu avais juste l'accordéon. Hein. Ben, ils sont restés. Puis ils l'ont fait. Puis après, chacun est reparti de son bois. Mais il dit non, on ne voulait pas de mal à personne. Il dit on venait pour s'amuser aussi, nous. Ben, sûrement, c'était des jeunes aussi qui campaient à la Beaussène à ce moment-là parce qu'il était. Comme il avait le doigt. Il avait réquisitionné des maisons, ils occupaient dedans aussi, mais eux, ils auraient peut-être préféré être chez eux aussi. Bon, moi, j'avais été pour en fréquenter un. Au bon de l'affaire, on dit toujours quand même pour fréquenter un boche, comme on disait. Puis, ça se passait. Non, il y avait une sur la Beaussène qui était dans le milieu du bourg, là, une grande maison. Alors, ils fréquentaient tout le temps les Allemands. Ils commerçaient ensemble, si on veut. Si tu voulais mettre des œufs, du beurre, ben, tu allais là, tout le monde rapatrié là. Mm. En ce temps-là, l'eau de vie, les Allemands avaient ben ça. L'eau de vie comme ça, s'ils pouvaient n'en ramasser, ils mettaient ça là, puis c'était tout. Ben le beurre, la charcuterie, c'est pareil. Les Allemands étaient ils en folle de la saucisse, du pâté, des machins comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Mais pendant la guerre, il y a un message. Alors, si tu n'avais, ben tu. Oui. Ben, puis payer ça bien, si on veut.
Et on habitait à la Saudrée, les parentés d'un côté.
Ah oui, mais longtemps après.
Et nous, on était de l'autre. On était dans la même maison.
Oui, mais pas aussitôt.
Ah ben oui, mais...
En fait, on a repris l'exploitation le 1er janvier 1977.
Et en ce temps-là, c'était un petit événement, parce que... Elle travaillait pas, elle
était... Moi, j'étais à l'extérieur, un emploi extérieur.
Ah, ça y a été les gens... Donc, ça y a fait vaser les... Il a fait vaser les vents. Oh, le capable, là, il prend une femme. Une femme qui est de l'extérieur.
Donc, j'ai cessé mon travail. On s'est marié en 1974. Donc, j'ai encore travaillé 3 ans après, tant que les parents étaient encore sur la ferme. Et du jour qu'ils ont dit qu'ils allaient partir, à ce moment-là, moi, on s'est installé le 1er janvier 1977. Changement de vie.
Vous étiez contente?
Ça a été dur.
Vous êtes encore...
Ah oui, parce que moi, je travaillais en bureau. Je connaissais personne sur la commune. Ça n'a pas été évident tout le temps. Non, non, non. Mais bon, on s'habitue, hein. Moi, j'habitais à Combourg.
C'était tout seul sur la ferme avec les parents. Et elle a continué à travailler quand même.
Et pendant ce temps-là, quand même, vous, vos parents ne vous versaient pas de salaire?
Non. Non.
Ah, c'est dingue.
Ah, ben allez dire ça à Evan aujourd'hui. Le dimanche, si j'avais mon entrée, quand on allait au bal et tout ça, j'avais mon entrée. J'avais ce qu'il fallait, mais...
C'est ça,
c'est pour ça qu'il y en a qui disaient, mais tu ne sors... Je ne sortais pas, mais que veux-tu, quand tu n'avais pas de sous, peut-être. Bon. Ah non, alors les vacances, on n'a pas eu, alors là. Moi, ça m'a marqué. Les batailles, pendant quoi?
T'as connu ça?
Ça durait pendant 3 semaines. Alors, te gamin, ben, nous, on te destinait à prendre les gerbes de blé, et puis les balancer sur la table de... Oh, comment il appelle ça, la table de la batteuse. Puis allez, hop. Ou autrement, mais il y avait un aussi avec le grand pichet de... Grand pichet de cidre, puis... On amenait la volée de cidre à tout le monde. Mais il y avait un programme. Tel jour, ben, nous, on a pour 2 jours à battre, bon, ben, on te programmait, il venait mettre sa machine, et puis allez, on te met une trentaine. On battait où tu le hangar avant, ou qu'il a sa pelouse, il y a peut-être ben, 200 mètres à monter jusque dans l'eau du grenier. Puis à dos, je l'ai fait, moi. Un sac de 200 kilos, là, puis on le prenait, hop, 1, 2 et 3, sur l'épaule, puis allez, hop. T'es pas gros, mais fallait bien. Et puis j'étais avec des frères à papa, 2 tontons, là, ben, ils me mettaient dans le milieu. Un devant, l'autre derrière, t'es bien obligé de suivre. On ne regrette pas. Bon, on a eu du mal, mais bon.
Les jeunes qui jouaient au foot dans les communes voisines, ça dominait que dans différentes communes, un jour ils ont décidé de faire, ils disent, ça serait bien qu'on fasse un club. J'ai eu une invitation de votre part, des jeunes, dans la boîte aux lettres, m'invitant à cette réunion-là. Je dis à mon épouse, ça serait peut-être bien d'y aller. On avait nos enfants qui étaient jeunes à ce moment-là. Puis bon, quand on parle de foot, bon, les jeunes, ils ont tout de suite, ils savent tout de suite taper dans un ballon. Alors je dis, je vais aller voir ce qu'ils vont dire. Et puis, on a tellement discuté que c'était que des jeunes... Donc j'étais le seul père de famille dans l'équipe. Et puis au final, quand on a formé un bureau, eh ben, je me suis retrouvé le président fondateur du club de foot. Bon, eh bien, disons que c'est là que c'est parti, parce que bon, moi la vie de la Bossette, il y a pas longtemps qu'on était là. Bon, j'étais un peu comme beaucoup, hein, j'étais un peu de côté, puis il a fallu ça pour me lancer dedans, parce que on a fait donc un courrier, si tu te rappelles, à la municipalité de l'époque pour leur demander, parce que si on fait un club, une équipe, il faut qu'on ait un terrain. C'était le départ. Alors, on fait un courrier à la municipalité de l'époque, leur demandant, leur faisant part déjà de la formation du club, et puis leur demandant un terrain. Eh bien, on a été invités tous les deux. Hein, on a été invités tous les deux à la réunion de conseil. Ouais. Et puis, ils ont commencé par cette affaire-là. Et ils nous ont remerciés. Pas de terrain. Ils disent, on n'en a ni les moyens financiers, ni la possibilité, parce que les agriculteurs, pour récupérer du terrain, il n'y a pas de souci. Mais pour en perdre, c'est différent. Alors là, ils nous ont dit, Niette, pas de terrain de foot. Alors nous, on était bloqués, si on peut dire, pour avancer dans cette affaire-là. Eh bien, on leur a lancé un défi, parce qu'on s'est dit, s'ils ne veulent pas le faire, s'ils ne peuvent pas le faire, nous, on va le faire nous-mêmes. On a trouvé une brave personne, une brave famille qui nous a mis un terrain. Bon, ben, ils le louaient, bien sûr, ils étaient locataires. Nous, on leur payait le fermage. On a fait le terrain nous-mêmes. Hein, on n'avait pas le choix. On a fait le terrain nous-mêmes. On a fait une inauguration, une fois fait, c'est la photo que tu faisais voir tout à l'heure, avec coupure de ruban par le conseil général et tout, et la municipalité qu'on avait invitée, qui nous avait refusé. Alors on leur lançait quand même un défi. Donc ils sont venus, ils sont venus. Et puis, oui. C'est là qu'on est parti. On est parti parce que par le fait, ça nous a quand même donné un bon coup de main pour aller plus loin. C'était à 2 ans des élections, un truc comme ça. Bon, alors c'est là que je me suis dit, moi, à ce moment-là, j'avais été encouragé. Il dit, pourquoi tu ferais pas quelque chose? Parce que c'est vrai que c'était pas sympa de leur part de vous refuser ça. Alors, bon, ben, j'ai fait une liste et on est tous passés. On a mis tous les anciens dehors.
Je suis née à côté, la ferme à côté. C'est pour ça qu'on a. C'est du terrain de mes parents qu'on a construit ici. Je suis avec mes parents, longtemps à la ferme. Et puis bon, après, ben, je suis allée à Dole dans une usine de couture.
Quand ils m'ont connue. Quand on s'est connus.
Cyclone.
L'usine d'Alper.
Oui, voilà. Alors c'est là que j'ai quitté la ferme. Autrement, j'étais toujours à la ferme avec mes parents. J'avais dit, on avait un domestique, et j'avais dit au domestique, je dis, ce soir, je fais une touche. J'en avais vu avant, mais il y avait, qui m'écrivait dans la semaine, parce qu'il n'y avait pas le téléphone, alors il m'écrivait. Alors, maman dit, tu me montres ça? Je dis oui. Oh, maman, il n'a pas le grand instruction, il fait des fautes. Il fait des fautes. Ah bon? Puis je dis, il ne me plaît pas. De toute façon, il ne me plaît pas. Et puis je dis, le soir, j'étais invitée à un bal de mariage, je dis, ce soir, je fais une touche. Vous voyez, pour si bien dire. Hein.
Je pense qu'il sent. J'ai entendu, mon papy et ma mamie, ils m'avaient dit, vu qu'ils se connaissaient avec l'école, ils m'avaient dit qu'ils s'envoyaient des lettres chaque semaine de 3 et du coup bah ils s'envoyaient, ils parlaient tout comme ça et en plus à l'école mais ils s'envoyaient des lettres pour communiquer. Moi ils donnaient, en fait ils se voyaient, ma mère ses copines elles les voyaient et en fait le lendemain ils se disaient bon, on se retrouve à telle heure devant l'église par exemple et on rentre chez nous, ensuite elles s'invitaient entre elles et puis sinon je pense qu'il le faisait déjà avant. Moi, parfois, ce que ma sœur a fait, c'est qu'elle va toquer chez les amis. J'ai entendu des personnes parler. Ils disaient, c'est n'importe quoi, c'est un peu pareil. Ils disaient, moi, j'ai le plan 1, j'ai le plan 2. Et après, c'est n'importe quoi, ils continuent à dire ça. J'ai le lit 1, j'ai le lit 2. C'est n'importe quoi. Le lit 1, le lit 2.
C'est pas possible.
À notre âge, les histoires d'amour, c'est pas très très sérieux.
Surtout que notre collège à nous, bah.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Oh, c'est pas que notre collège, hein. On dit notre collège, mais à mon avis, c'est pareil dans les autres.
Mais vous croyez qu'à l'époque, les gens qui ont 90 ans aujourd'hui, c'était pas les mêmes cas? Il y en avait peut-être qui avaient plein d'amants, d'autres pas du tout, d'autres.
Je pense qu'il y avait les amoureux, mais je pense que leurs parents, ils leur disaient. Ah, vous voulez pas, vous avez pas le droit, je pense qu'il leur disait, vous avez pas le droit avant un certain âge d'avoir des amoureux à l'époque.
Moi, je pense que c'était déjà plus romantique que maintenant, parce que nous, c'est genre, ça va, sur téléphone. Alors qu'avant, c'était, ils devaient se voir. Maintenant, on t'envoie sur téléphone, tu parles sur téléphone, il y a plus beaucoup de discussions.
Ouais, moi, je pense qu'à l'époque, ils faisaient des jeux comme t'as dit. Peut-être ils avaient une balle, ils se passaient des trucs, ils faisaient des cabanes, ils jouaient, ils faisaient des jeux de société, ils lisaient, ils faisaient les strict minimum. Nous maintenant on a les trucs high-tech et tout, on a les jeux vidéo, du coup c'est pas pareil.
Comment vous imaginez par exemple à 80 ans?
Perso, moi si je vois encore des enfants jouer dehors et tout, je serais super fière de revoir une génération comme ça. On va pas faire n'importe quoi.
C'est important pour toi d'être dehors, la nature et tout?
Ouais, c'est très important pour moi. Bah, t'es pas en train de geeker, venir faux. Ouais, l'autre jour, j'ai entendu un pote aujourd'hui au collège. Il disait, quand on rentrait du sport, il disait moi, des fois, pendant 2 jours, j'ai pas dormi vu que je fais des jeux vidéo. Bah, j'étais en mode pendant toute la nuit, du coup, il geek. C'est impressionnant. Et moi c'est important du coup la nature.
Bah moi mon grand-père il m'en a déjà parlé, mais par exemple ce qu'il faisait c'est qu'il sortait dans la rue, il n'y avait pas de voiture à cette époque, ou très très peu. Donc c'était vraiment, ils allaient voir les copains tout ça parce que c'était dans la même ville au final. Donc ils étaient tous entre guillemets unis et... Et genre, ils étaient heureux comme ça. Personne ne se demandait, par exemple, s'ils ne rentrent pas le soir, c'est qu'ils mangent chez un copain. Et puis voilà, personne, il n'y avait pas cette histoire de kidnapping ou des trucs comme ça. Donc c'était beaucoup moins inquiétant. Et je pense qu'ils sont déjà pas non plus heureux que nous maintenant. Mais il y avait beaucoup moins de problèmes avant que maintenant. Bon, il y avait la guerre, certes, mais s'il n'y avait plus à la guerre... Je pense que ça aurait été la meilleure époque.
Le premier jour où je suis arrivée à la Beaucène, c'était vraiment par hasard. On avait vu la maison là où j'habite, que j'ai achetée. Et en fait, on avait trouvé sur Internet. On était allés... elle est en plein milieu d'un lotissement. Et en fait, elle était abandonnée depuis 2 ans. Et du coup, il y avait des herbes comme ça, de 2 mètres de haut, et puis au milieu d'un lotissement. Donc, c'était assez original, mais dans le quartier, ça fait plaisir que quelqu'un s'occupe de cette maison. Je prenais le bus qui faisait Dinan-Rennes et il passait là. Et je me souviens que, du coup, je m'arrêtais là et je m'étais dit, moi, jamais de la vie, je voudrais venir là.
Moi, sur la Beaucène, si je peux commencer.
Vas-y.
Un lieu où je me sens très, très bien. Comme un peu ce que disait Zoé tout à l'heure, c'est la forêt. C'est voilà, c'est partir, me promener avec mon chien, mes enfants, mon mari, dans la forêt. Et voilà, je m'en lasse pas quoi. C'est calme, c'est beau, c'est paisible. Et c'est un lieu dont je me lasse pas. Et j'y vais l'été, j'y vais l'hiver. S'il pleut, j'y vais, c'est pas grave, je mets mes bottes. S'il fait beau, j'y vais en tongs. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est moi, c'est vraiment ce petit coin-là, c'est mon petit coin de paradis.
C'est marrant parce que du coup, moi, c'était pas la forêt, mais il y a une petite boucle qui fait le tour. Et pareil, finalement, c'est là parce que moi, je vais courir là et je me sens assez paisible et on est bien. Et il n'y a pas de bruit, on a une belle vue sur plein de choses au loin et c'est agréable. Toi, tu prends. Moi, du coup, ça commence en bas de chez moi. Donc,
après, tu prends par la garde.
C'est ça, la garde.
Tu remontes au Hill.
Le Hill, ouais. Et après, c'est.
Jean-Michel.
Oui, mais c'est quoi le nom?
La Gilodée.
Je sais pas, la Gilodée. Toi, tu connais les lieux, mais moi, c'est vrai que je connais pas trop les lieux dits. Et après, en fait, ça revient, bah, ça arrive en haut du stade de foot. Et après, moi, je reprends le petit chemin des écoliers et puis j'arrive juste en haut de chez moi. Pratique. Et la fin, en général, en fonction de l'heure ou du jour, bah, j'arrive sur les champs et puis j'ai le coucher de soleil. Ou... J'aime bien. Ouais, c'est... Mais c'est je pense que le mot, c'est paisible. Quoi.
Mmh, c'est ça.
Voilà.
C'est une petite route, il n'y a pas beaucoup de circulation.
C'est ça.
Plus vieille avec vos enfants ou vos petits-enfants, etc., vous imaginez qu'elle sera comment la vie pour eux ?
Moi, j'espère que déjà, à leur époque, il y aurait un peu la paix partout et pas des guerres comme la grande Ukraine en ce moment ou des pandémies mondiales. Ce serait vraiment cool que tout le monde se mette d'accord sur un truc et que vraiment la terre entière soit du même avis. Même si personne n'est du même avis, parce que tout le monde a ses opinions et ses choix. Mais ça serait quand même bien qu'il y ait plus la paix dans le monde. Et qu'ils soient tout simplement heureux où ils sont. Et s'ils ne sont pas heureux, bah, ils partent. Ils vont dans un autre pays, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont heureux, c'est important.
C'est ça la chose principale, c'est d'être heureux pour toi.
Ouais.
Bah, en vrai, comme Chloé, genre qu'on puisse se déplacer si on a envie plus facilement, qu'il n'y ait plus les guerres pour... par exemple, bah là, tout ce qui est à côté de l'Ukraine ou Russie, c'est compliqué d'y aller, qu'il n'y ait plus de guerre, comme ça on peut aller partout, on peut visiter tout, que bah ouais, il n'y a pas un Covid à revenir ou quelque chose comme ça. Sinon, bah, que ce soit moins pollué, puisque bah, dans quelques années, bah... Je sais pas comment ce sera parce que là ça va encore, mais si on continue comme ça, bah, je crois que ça va être compliqué après. Premier confinement pour nous c'était la CM2. Donc ouais, bah, ça a coupé notre année de CM2, donc ce qui était censé nous préparer au collège. Donc sinon il y a eu aussi, quand on est arrivé au collège en 6e je crois, il y avait eu un confinement avant les vacances, donc bah, c'était compliqué parce que bah, tu arrives dans un collège, à peine t'es arrivé qu'on te remet en confinement, donc il fallait déjà s'adapter au collège et en plus il fallait réussir à gérer les devoirs qui étaient plus compliqués, donc c'était assez galère. Mais sinon c'était un bon moment parce que bah, on parlait plus avec les autres, quand on sortait, bah, genre, c'était pas pareil, on devait pas trop s'approcher. Quand on est revenu bah, ici, c'était... je m'en souviens, la première fois qu'on est revenu ici, c'était bah, chacun à sa table. Et on faisait un jeu sur le tableau. Donc ouais, ça avait changé. Mais là, ça va, on a eu le temps de reprendre notre vie normale.
Exactement.
Bah, moi, personnellement, le Covid, je l'ai plutôt bien vécu. Sachant qu'en CM2, c'était pas la meilleure année pour moi, le confinement, hein, ça m'a beaucoup aidé, franchement. En plus, on avait moins de devoirs, donc vu que j'ai un grand jardin chez moi, j'allais tout le temps dehors. Mais moi, je l'ai bien vécu. J'ai eu plusieurs fois le Covid, je m'en suis même pas rendu compte. Bon, je l'ai eu pour mon anniversaire, mais ça, c'est pas grave. Je suis toujours vivante, donc c'est que ça va. Hein. On va pas se mentir. Et puis les confinements, moi personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bah, pas non plus cool, mais genre plutôt bien. Parce que quand on en a marre de l'école, eh ben, déjà au confinement, on se lavait à l'heure qu'on voulait, on mangeait à l'heure qu'on voulait, on faisait tout à l'heure qu'on voulait. On pouvait faire nos devoirs à 2h du matin ou alors le faire à 14h. Moi j'ai trop aimé le confinement, c'était trop bien.
Ouais, c'est ça, on avait plus de liberté, enfin. Liberté, pas trop parce qu'on pouvait pas sortir, mais on n'avait pas d'horaire fixe, par exemple à 8h30 au collège. On pouvait faire un peu, genre, on pouvait se lever plus tard, mais travailler toute la matinée et faire une pause l'après-midi. Enfin, on n'avait pas d'horaire et bah, ça c'est bien parce que je trouve que quand on a des horaires fixes, et bah, ça nous donne pas trop envie d'y aller. Alors que quand on avait nos horaires, par exemple, bah, je sais qu'avec maman on avait fait un petit planning pour.
être sûr qu'on fasse nos devoirs, mais on avait des pauses entre, alors que bah, au collège, on a 5 minutes de cours, on a 50 minutes de cours, 5 minutes de pause, et on enchaîne direct, alors qu'on pouvait enchaîner 2 heures de cours et faire une pause pendant 2-3 heures et recommencer. Donc ouais, c'était mieux, je pense.
C'est le rapport au temps qui changeait, quoi.
Ouais, bah, je sais pas, parfois, il y avait des jours qui passaient très vite parce qu'on faisait pas grand-chose. Ou des choses, des moments qui passaient lentement parce qu'on était enfermés, que bah, on voyait moins de monde. Mais ouais, je pense que c'est surtout le rapport au temps qui a changé.
Si vous réécoutez ça à 90 ans, vous auriez envie de vous laisser un petit message, vous auriez envie de vous dire quoi ?
Profite de la vie.
Ouais.
Profite de la vie parce qu'elle est méga courte. À 50 ans, t'es pratiquement à la moitié de ta vie si tu vis jusqu'à 100 ans. Mais par contre, si tu vis à 80 ans, il reste plus beaucoup de temps. Donc profite de la vie. Profite de ta famille parce que tout peut t'arriver. Et fais-toi plein d'amis.
Bah, jamais repousser ce qu'on peut faire maintenant à plus tard, parce que bah, on peut avoir un accident ou quelque chose comme ça à tout moment, donc si t'as envie de le faire, fais-le. Et bah ouais, profite de ta vie, sois heureuse, rencontre du monde, un peu tout ça. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
Cette émission a été réalisée par Camille et Elodie. Merci Emmanuel, Hervé, Daniel, Jean-Michel et Marcel, Léa, Guy, Jean-Yves, André, Jean-Noël, Marie-Thérèse, Joé et Monique, Gilbert, Anne, Zoé et Angélique, Laura, Malo, Charlie, Manon, Zoé et Chloé. Et merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission.